petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
La démocratie fait société. Sur l'Agora, les hommes libres d'Athènes délibéraient ensemble de leur sort collectif, inventaient leur société au jour le jour, reconduisaient ou non leurs magistrats. La démocratie résulte de la peur du tyran qui s'impose par la ruse ou la force, peur du malheur de l'oppression. Mais la démocratie n'échappe pas à la loi du plus fort. C'est à l'issue de la délibération qu'il faut prendre une décision qui ne peut pas faire l'unanimité. Le plus fort, celui qui emporte la décision, sera le plus nombreux. Le fait majoritaire, issu du suffrage universel, est très fragile. Sa fragilité est dans l'improbable soumission des minorités électorales. Pourquoi la minorité se soumettrait-elle? La démocratie est donc très rare parmi les peuples. Elle est d'autant plus contestable quand majorité et opposition sont à quasi-égalité numérique. Pourquoi 51% aurait raison contre 49%? La règle semble arbitraire. En fait, la démocratie ne peut pas reposer sur le fait majoritaire. La démocratie, et c'est paradoxal ça, et c'est pourtant vrai, repose sur l'unanimité. L'unanimité d'acceptation de la règle du jeu. La décision et le pouvoir reviennent provisoirement à ceux qui sont majoritaires, ne serait-ce que d'une seule voix, sur des millions de voix. Tous ne sont pas d'accord sur telle décision politique ou tel élu, mais tous, ou presque, sont d'accord pour dire que la majorité, même très restreinte, doit l'emporter. La différence faible entre majorité et opposition ne va pas de soi pour donner raison à la majorité. Elle reste arbitraire, mais elle devient une différence symbolique qui fait société si le symbole du fait majoritaire est unanimement accepté. Il n'y a pas de différence réelle entre 51% et 49%, mais il y a une différence symbolique conventionnelle plus réelle que la différence arithmétique. Le symbolique est pourtant une abstraction. D'ailleurs, en démocratie, les majorités sont souvent courtes. Les majorités larges sont des plébiscites, ou, par situation de panique populaire, les situations se déchargent sur un homme providentiel. Voilà pourquoi il y a si peu de pays démocratiques au XXIe siècle. Les citoyens minoritaires qui ont voté contre telle loi ou tel élu se doivent d'obéir à cette loi ou cet élu. Et même par l'acceptation, ce dont on vient de parler, même par l'acceptation unanime de la règle du jeu, de la règle du jeu du fait majoritaire, qu'ils participent donc à légitimer. Il légitime le fait majoritaire, puisque même la minorité est d'accord sur la règle du jeu. Les citoyens minoritaires ne peuvent pas se sentir très heureux. C'est que la démocratie trouve son bonheur ailleurs. La possibilité et l'espoir d'une alternance donnent sa crédibilité à la démocratie. La minorité agit pour devenir majoritaire à la prochaine élection. Du coup, la démocratie est un combat, et ce n'est pas pour rien que l'on parle de campagne électorale comme on parle de campagne militaire, de victoire et de défaite, de militants qui viennent, de, en latin, de miles, le soldat. La démocratie, en ce sens, et c'est assez étonnant parce que ce n'est pas ce qui se dit, ressemble plus à la guerre qu'à la paix. Mais alors que la guerre cherche à nier l'ennemi en le supprimant, la démocratie affronte l'adversaire en respectant son existence. Respect de la règle du jeu, celle dont on a parlé, la règle du jeu du fait majoritaire, respect de l'adversaire et aussi respect des contrats. Par exemple, un élu est élu pour 5 ans, contrat honoré, même si les sondages font apparaître l'élu en minorité au cours de son mandat. Tous ces respects sont la condition sine qua non de la démocratie, et c'est pas facile de les assumer. De ce fait, la démocratie est plus proche du sport que de la guerre. Et les sports de masse contemporains, le rugby, le football, ne procèdent pas de la culture grecque des Olympiades. Ils proviennent presque tous de l'époque victorienne, la reine Victoria, qui a régné en Angleterre de 1837 à 1867, l'Angleterre première puissance du monde à cette époque-là, d'où les écoles et les patronages anglicans qui popularisent ces sports auprès de la jeunesse. Pourquoi ? Plus ou moins consciemment, il s'agit d'éduquer au capitalisme de la première révolution industrielle, celle précisément du XIXe siècle de l'Angleterre victorienne. En effet, capitalisme, sport et démocratie reposent sur les mêmes principes et pratiques, combativité, esprit d'équipe, fair play, respect de l'adversaire, respect des règles et des contrats, du moins dans l'utopie de leur idéaux. C'est pourquoi la carte géographique des pays vraiment démocratiques correspond à la carte des pays prospères en économie de marché. C'est la même culture du bonheur par la compétition, par la combativité, la concurrence, où chacun considère les autres comme l'exigence d'un dépassement de soi. Exaltation de l'ouverture au risque de l'autre. Mais en même temps, la démocratie vit dans l'angoisse, pas simplement donc l'exaltation. Dans l'angoisse de la sécurité de chacun. Chaque citoyen a aussi tendance à considérer autrui la société comme la garantie, comme devant être la garantie de la sécurité de soi, l'État providentiel. La démocratie oscille au XXIe siècle entre ces deux pôles. Ni la symbolique du fait majoritaire, ni le combat pour l'alternance ne suffisent à définir la démocratie. On se souvient du tollé qu'avait suscité la fameuse réplique d'un député, en l'occurrence André Léniel, en 1981, qui avait déclaré contre l'opposition d'alors « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». C'était la négation de l'état de droit, qui est aussi un fondement de la démocratie. Les mêmes lois s'imposent à tous et doivent être respectées sans exception. Les codes civils et pénals édictés par Napoléon font plus pour la concrétisation populaire de la démocratie que le suffrage universel, qui d'ailleurs n'a pas été pratiqué sous le Premier Empire. L'état de droit se fonde lui-même sur les droits de l'homme et du citoyen, garantir les libertés individuelles et l'égalité devant la loi. C'est finalement une nouvelle forme d'utopie, flagrante, comme le montre l'agenda d'août 1789, très curieux celui-là, où fut votée la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. On commence à en voter les articles le 20 août 1789. Mais le 19 août, la veille, l'Assemblée nationale repousse un article 5 ainsi libellé. Alors il faut attacher les ceintures là. Chaque homme n'a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user de ses droits. De là naît l'inégalité entre les hommes, l'inégalité est donc dans la nature même. Il a été repoussé cet article. L'égalité de l'article 1er n'est donc pas une égalité en fait, c'est une égalité en droit seulement, c'est-à-dire la même loi pour tous. L'ambiguïté démocratique donne le vertige dans ses légitimes contradictions. Les démocraties contemporaines se mesurent souvent à l'aune de la liberté d'expression, de réunion et donc in fine de manifestation. Cette dernière pourtant met en cause les décisions du suffrage universel et la libre circulation des personnes. Je parle toujours des manifestations. S'agirait-il d'une prise de pouvoir partielle démocratique et antidémocratique à la fois par une minorité agissante? La démocratie a plusieurs facettes, mais elle a aussi quatre principes. L'acceptation unanime du fait majoritaire, la possibilité d'alternance, l'état de droit et la liberté de manifester.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.